Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de l'amour fraternel et sur un angle particulier. Il y a dans le verset qu'on vient de lire ici cet aspect qui me semble important. Cet aspect important, et c'est un verset que j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous l'aimez beaucoup, il parle de l'Église comme un ensemble de pierres vivantes. Donc l'Église, comme ça a été dit, ce n'est pas le bâtiment. Hein, souvent, on parle improprement de l'Église en disant que c'est un bâtiment. On pourrait dire les locaux de l'Église. Voilà. Mais l'Église, c'est nous. Et nous sommes des pierres vivantes. Alors j'aime bien cette chose-là, peut-être que ça ne vous parle pas, parce qu'aujourd'hui on fait avec des parpaings, hein. Mais à l'époque c'était avec des pierres. Et cette idée de ce que nous sommes chacun dans un édifice, chacun à nous soutenir les uns les autres. Il y en a qui sont sur le côté, d'autres qui sont au-dessus, d'autres qui sont dessous. En tout cas, on est tous ensemble bien coordonnés. Et bien c'est ça la vraie image que le Seigneur voulait nous donner à travers ces paroles de Paul. Donc c'est une construction qui est faite d'hommes, de femmes, d'enfants, une maison spirituelle, pas juste une maison, un club, ce n'est pas un club, une église, mais c'est une maison spirituelle et un endroit où on offre des sacrifices spirituels, donc quelque chose qui est au-delà du petit train-train, du petit blabla et de ce qu'on peut avoir dans un club du troisième âge ou un club pour enfants, ou, hein, c'est autre chose. Ce qui est important aussi de noter ici, c'est que tout ce qu'on va faire, c'est à travers le Seigneur Jésus-Christ. On est rassemblés pour le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est le seul rédempteur. Et là, on voit bien, c'est par Jésus-Christ, le seul médiateur. On ne va pas parler de beaucoup sur médiation. Mais on va parler maintenant de quelque chose qui me semble intéressant. Eh bien, c'est que d'abord, nous sommes des pierres très, très, très différentes. Vous avez remarqué, je ne parle pas de l'apparence, hein, évidemment. Et je ne veux pas parler des différences de culture, je ne veux pas parler des différences de sexe, mais on va parler de, certes, un autre aspect. Et cet aspect, on va l'illustrer par plusieurs personnes. Alors, Barnabas. Connaissez-vous Barnabas ? Un petit peu, quand même. C'est vrai qu'il n'a pas écrit de lettre qui nous soit parvenue et qui a été incluse dans le Nouveau Testament, mais ce Barnabas a été un bon équipier, et on va voir pourquoi. Barnabas, eh bien, il a été... D'abord, son vrai nom, c'est Joseph, vous saviez. Barnabas, ça veut dire fils d'exhortation. C'était un surnom, parce que c'est quelqu'un qui exhortait, qui avait du cœur pour les autres. Un homme généreux, on le lit ça dans Actes 4, et il a vendu son champ. Vous savez, au début, à l'église de Jérusalem, il fallait justement pouvoir aider les uns et les autres. Et il a été un de ceux qui a apporté son offrande. Bon, plein d'esprit de foi, ça c'est dans Actes chapitre 11 qu'il est parlé de lui en ces mots. Actes chapitre 11, donc il est écrit que c'est un homme bon, et ça c'est, on ne peut pas l'empêcher, un homme plein d'esprit saint et de foi. Et c'est un leader équipier, c'est lui qui était allé chercher Paul, et c'est lui qui a accompagné Paul. C'est lui qui a lancé finalement Paul dans le ministère qu'on lui connaît. Et on pourrait dire que ce genre de personne est très tourné vers les autres. Hein. C'est quelqu'un qui aime... qui aime les autres, qui est réceptif à leurs besoins, qui va vers les gens, qui est amical, qui est agréable, qui est loyal et très motivé pour aider le groupe à travailler ensemble. Cette personnalité, la personnalité de Barnabas, c'est quelqu'un qui fait vraiment esprit de corps. Il suscite la cohésion du groupe et arrive à ce que le travail soit fait harmonieusement, efficacement. Et il coopère facilement avec les autres et construit des relations qui permettent d'accomplir cette vision. C'est le profil type de l'équipier, Barnabas. Et on va voir ici trois autres personnes qui ont des profils différents. Et finalement, avec ces quatre personnes, on va avoir déjà un tableau assez précis de ce qu'on peut trouver dans nos églises. Vous me suivez ? On continue. Et là, on va voir avec monsieur Pierre. Alors Pierre, je l'appelais l'influenceur. Hein. Pourquoi ? Parce que ce cher Pierre, eh bien, il a plein de choses. Alors c'est le leader impulsif. Hein. Vous savez, alors lui, il réagit avec ses tripes. C'est comme Barnabas aussi, c'est quelqu'un qui est vraiment tourné vers les autres. Il est impulsif, on le voit dans Matthieu 14, 16, 17. Vous savez, c'est lui qui va dire, bon, il voit apparaître au moment de la transfiguration Jésus avec les anciens les anciens de l'Ancien Testament, j'allais dire, il est Moïse, et il dit, bon, on va faire une petite tente, on va rester tous ensemble, bien, ça va être cool. L'impulsif, hein, il va dire, Seigneur, je ne trahirai pas. Non, c'est un personnage comme ça, quelqu'un qui est toujours dans l'impulsivité, le ressenti, qui fonctionne avec les tripes. Et moi, je l'aime bien, Pierre, parce que, quoi qu'il en soit, eh ben, il a quand même avancé. Il est parfois plein de contradictions. Il a dû, à un certain moment, d'ailleurs, être repris par Paul. On pourrait en parler aussi, parce que ben, il voulait pas se fâcher avec les gens. Donc, ben, avec les judaïsants, il a fait comme avec les judaïsants. Il s'est écarté des païens, enfin, alors que d'habitude, il allait, lui, vers les païens. Donc, cette personnalité, c'est quelqu'un qui est très orienté vers les autres, je reprends, qui a une forte influence personnelle. C'est pour ça que je l'appelais l'influenceur. Hein. C'est quelqu'un qui peut amener, qui peut enthousiasmer les gens, qui a un grand talent de persuasion, qui donne aux autres une bonne impression, parce que ben, il est bon vivant et tout ça. Il les motive à travailler ensemble. Donc, c'est quelqu'un qui va influencer pour que les choses arrivent, pour accomplir des résultats importants. Alors, il y a un autre personnage qu'on va regarder, Luc. Alors, Luc, qu'on peut appeler le réalisateur. Pourquoi on va appeler le réalisateur? Si on regarde un petit peu la vie de Luc, ben, d'abord, c'est le médecin bien-aimé, hein, tel qu'il est nommé dans Colossiens. Donc, le compagnon de Paul pendant pas mal de voyages missionnaires. C'est lui qui a pu écrire l'Évangile. C'est lui qui a pu écrire les Actes. Et c'est vraiment celui qui est dans la précision. C'est quelqu'un qui a un esprit analytique, bien posé, médecin, vous savez, clac, 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 c'était bien. Il ne faut pas croire que la médecine, à ce moment-là, c'était rien du tout, non? Il y avait déjà quand même pas mal de choses qui fonctionnaient. Très orienté vers les tâches à accomplir, très ordonné, il fait une tâche à la fois. On peut compter sur son excellence, il arrive toujours à ses fins. Donc on lui confie quelque chose, il va le faire. Hein. Maintenant, ça, c'est bien calé. Il accomplit vision et plan avec minutie et excellence. C'est la personne sur laquelle on peut compter. Un bon technicien qui ne prend pas de risques inutiles. Luc. Donc on a vu Barnabas, Pierre, Luc. Et maintenant, on va voir un quatrième. Paul. Paul, le visionnaire. Vous avez vu que chaque fois, j'ai trouvé des photos quand même. Là, c'est la plus ancienne. Apparemment, c'est une mosaïque du 4e siècle. Je ne sais pas comment ils ont réussi à retrouver la tête de Paul. Mais bon, peut-être qu'il était comme ça, effectivement. Hein. Paul le visionnaire, même si on dit qu'il ne voyait peut-être pas très bien. Hein. C'était ça, l'écharde qui était dans sa chair. Paul le visionnaire. Alors, ce Paul, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ben, lui, il se nomme l'apôtre de Jésus-Christ, effectivement. Il n'a pas fait partie des 12 qui étaient auprès de Jésus, mais il a été amené par Jésus à ce titre d'apôtre. Et on lit ça dans Galates, chapitre 1, verset 1. Inlassable missionnaire. On connaît ces voyages qui ont été décrits dans l'Acte des Apôtres. Lui, c'est quelqu'un qui court vers le but, tendu vers le but. Donc, c'est le visionnaire. Il a la vision et il avance. Et on peut dire que c'est lui l'auteur de l'institution de la religion chrétienne. Hein. Ce n'est pas Calvin, mais c'est vraiment lui qui, à travers toutes ces lettres, il a écrit 13 livres, on va dire, sur 27 dans le Nouveau Testament. C'est presque la moitié. Et c'est lui qui a vraiment bien cadré par rapport à ce qu'il avait reçu du Seigneur Jésus et par rapport à la vision qu'il a pu mettre en place. Il avait rapidement une vue d'ensemble. Il a pu écrire ses épîtres. Et ces épîtres ont été partagées dès le début à travers les différentes églises. L'épître aux Galates ou l'épître aux Romains étaient circulées, pas simplement en Galatie ou à Rome, mais elles ont circulé un petit peu partout, ces épîtres. Et elles ont pu modeler effectivement ce qu'était la religion chrétienne, c'est-à-dire la relation que nous pouvons avoir avec le Seigneur Jésus-Christ. À travers toutes ces lettres-là, on me l'a beaucoup mieux compris. Donc, c'est le leader visionnaire. Donc, le pionnier, hein, celui que lui, il a peur de rien, lui. Hein. Il avait peur de rien avant, hein, vous vous rappelez. Avant de se tourner vers le Seigneur Jésus, il avait peur de rien. C'est lui qui pourchassait les chrétiens parce qu'il trouvait que c'était une secte qui faisait n'importe quoi. C'est lui qui, amenait les gens à la lapidation, etc. Donc, lui, il avait peur de rien. Il courait partout pour arriver à ses fins. Après avoir rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, eh bien, il a été la même personne au service du Seigneur Jésus. Ce côté pionnier et visionnaire, eh bien, il l'a amené au service du Seigneur. Donc il met les choses en route, lui. Il est très motivé, dominant, parfois directif, et orienté vers le but à atteindre. Donc c'est lui, il avance. Il n'aime pas les détails et la routine, hein, l'intendant suivra. Il n'aime pas être contrôlé, mais pas avoir tendance à trop contrôler, surtout en période de pression. C'est le type de personne que Paul était. C'est pas nécessairement un joueur en équipe. Et il peut même aimer la solitude. Lui, il faut que les gens le suivent. Vous vous rappelez à ce moment où il s'est fâché avec Barnabas parce que Barnabas voulait ramener Marc avec lui et que Marc, une fois, n'avait pas voulu suivre Paul. Paul s'en souvenait. Bon, il ne me suivra pas celui-là, il n'est pas assez solide. Paul et Barnabas se sont fâchés à ce moment-là parce que Paul a été inflexible sur ce sujet-là. Donc lui, c'était celui qui avance. Chacun de ces cas est un cas différent, une figure, un type de comportement différent. Et alors, la question qui se pose, qui sommes-nous, chacun d'entre nous ? Sommes-nous un Barnabas ? Celui qui aime bien que les choses aillent bien, on est bien ensemble, il faut que ça roule bien. Hein. Je mets de l'huile dans les rouages. Un Pierre, impulsif, qui est très, très extraverti, qui réagit beaucoup avec les tripes. Un Luc, un cérébral, qui est très, très méthodique, il faut que tout soit bien fait, bien coordonné. Ou alors un Paul, un visionnaire qui avance et qu'il faut que les autres suivent. Et puis, je ne sais pas qui vous êtes. Hein. Je ne connais pas tout le monde et je ne veux pas faire de morphopsychologie, hein. Surtout pas. Mais chacun d'entre nous, on peut se reconnaître certainement dans un de ces quatre personnages. Et en fait, ce matin, simplement, je voulais aborder l'amour fraternel avec cet aspect très pratique. Pouvoir d'abord savoir qui nous sommes, pouvoir regarder les autres en sachant qu'ils sont différents, tout simplement. C'est un exercice difficile, en fait. Hein. On a des filtres, chacun d'entre nous, on a des filtres qui sont notre personnalité, qui nous sommes, et quand on regarde les autres, on voudrait bien qu'ils fassent comme nous, qu'ils soient comme nous, qu'ils chantent comme nous, qu'ils prêchent comme nous, qu'ils prient comme nous. Hein, une manière de faire. Et on a du mal à accepter la différence. Hein, on a du mal à voir les autres comme des gens qui ont aussi de la valeur. Et la manière d'exprimer leur foi, elle est aussi bonne que la nôtre. C'est pas si évident. Hein, parce qu'on peut très facilement tomber dans le jugement. Ah, ben, il fait comme ça, il fait pas comme ci. Pourtant, le Seigneur nous dit, vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc, il est important de réaliser cela et que dans nos rapports entre les uns et les autres, on puisse avoir de la tolérance. Aimons-nous les uns les autres, c'est un commandement et on va le reprendre, mais ça peut rester qu'un slogan. Après, il y a le côté pratique. Et ce matin, je voulais juste amener cet aspect pratique. Nous sommes tous avec une personnalité différente. Bon, là, on a mis quatre caractères bien typés comme ça. Peut-être que vous ne reconnaissez pas dans un de ces quatre, peut-être que vous êtes entre les deux parce qu'on n'est jamais à 100% comme l'un comme l'autre, mais on est tous différents. Et dans la manière dont cette église fonctionne, dans la manière dont les différents groupes de louanges changent, différents prédicateurs, et puis aussi la manière dont on interagit entre nous, quand on se parle, quand on est dans le groupe de prière, dans les PPP, etc., dans les groupes de jeunes ou ailleurs, on est tous différents et il faudrait savoir apprécier la différence plutôt que de se battre là-dessus. Alors, des conseils pour que le ciment prenne. Hein, parce qu'on est des pierres, mais les pierres, elles sont quand même liées par quelque chose. Elles sont liées par du ciment. Et le ciment, c'est l'amour. L'amour qui permet l'unité. Dans 1 Jean 4, le Seigneur dit à travers la bouche de Jean, « Mes amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Alors, le verset qu'on a lu tout à l'heure, dans Colossiens, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. » On peut sauter entrailles, si vous voulez. « Revêtez-vous de miséricorde. » Moi, j'aime pas trop cette image d'entrailles. C'était la meilleure traduction. « De bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » Tout cela, ça fait partie du fruit de l'esprit, n'est-ce pas ?« Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Donc là, on trouve des thèmes qui sont récurrents dans les évangiles et dans les lettres. L'amour, l'importance de l'amour et l'importance du pardon. Alors, il y a quelqu'un qui demande à Jésus, combien de fois faut-il pardonner par jour ? Et Jésus a dit, 490 fois, c'est ça ? 70 fois 7 fois, ça veut dire une infinité de temps. Parce que chez les Juifs, il y avait un nombre limité. Hein, il ne fallait pas pardonner plus de temps de fois. Jésus dit, mais non, le pardon doit être sans arrêt. Et je pense que dans nos rapports mutuels, c'est écrit là, il faut arriver à se pardonner les uns les autres. Et c'est vrai qu'on peut être maladroit parfois dans nos paroles. Ça vous arrive jamais d'être maladroit ? Ouais, mais moi aussi, ça m'arrive aussi. Hein, pour le dire, demandons-nous pardon réciproquement. Arrivons à travers qui nous sommes, nous accepter les uns les autres et vraiment avoir cette idée de pardon ancrée dans nos relations. Parce que c'est uniquement comme ça qu'un groupe d'hommes et de femmes, que ce soit une église ou une organisation ou même une entreprise, peut continuer à vivre ensemble si on se pardonne, puis on oublie, on tourne la page, c'est terminé. Il est parlé de bonté, humilité, douceur, patience. L'humilité est aussi un caractère important et récurrent dans la parole de Dieu. Estimons-nous supérieurs les uns aux autres, c'est ça ? Non, non. Estimons-nous inférieurs les uns aux autres. Mettons-nous justement au service des autres plutôt que voulant dominer les autres. Et ça, c'est quelque chose qui est assez récurrent aussi dans la parole de Dieu. Alors, la question est, avec ces Barnabas, Pierre, Luc et Paul, c'est que dans notre Église, ici, eh bien, il y a peut-être autant de Barnabas que de Paul, que de Pierre et que de Luc. Et qu'avec tout ça, on essaie de faire un édifice spirituel qui fonctionne. Le Saint-Esprit est là pour nous aider, mais il faut aussi l'écouter. Hein. Le Saint-Esprit nous parle souvent, mais on ne l'écoute pas toujours. Vous le savez, ça ? Moi, je le sais, perso, hein. Des fois, il me parle, mais je n'arrive pas. Bon, il faut faire très attention à cette attitude que, parce que je suis un Barnabas, je veux voir l'Église comme elle est. Ceux qui sont comme moi, ce sont les bons, ce sont spirituels. Ce sont les justes, parce qu'ils pensent comme moi, ils font comme moi, ils prient comme moi, ils peuvent se lever comme moi, si je suis du genre Pierre. Ou alors ils sont très sérieux, comme moi, si je suis du genre Luc. Vous savez d'ailleurs à ce sujet qu'il y a des peuples qui sont beaucoup comme Luc. Hein. Quand j'étais allé en Finlande et en Suède, dans les cultes, ils sont tous comme ça. Loué soit Dieu. Hein. Mais je vous dis par là que, qu'on soit Barnabas, Pierre, Luc et Paul, il faut arriver à comprendre que ben, nous sommes ensemble pour bâtir quelque chose, pas à notre image, mais à l'image de la diversité. Peut-être une autre fois, on parlera de la diversité de culture qu'il peut y avoir dans une église, mais ça, on pourra parler aussi peut-être de la diversité qu'il y a simplement entre les hommes et les femmes, diversité de point de vue. Mais là, aujourd'hui, c'était juste cet aperçu de la diversité qu'il peut y avoir entre les différents types de personnalités. Alors, du côté pratique, si on regardait un petit peu quels conseils on pourrait donner au Barnabas. Barnabas. Alors, Barnabas, ben, il faut accepter que les autres puissent être différents. Ça, c'est le premier point. On est tous d'accord avec ça ? Bon, je sens que ça va être répété. Être autant concerné par la vision que par la vie de l'équipe. C'est-à-dire que les Barnabas, souvent, ben, ils sont très contents quand ça fonctionne comme ça, mais il y a une vision, et on va en reparler, cette vision tout à l'heure, ben, sur laquelle il faut avancer. C'est bien d'être ensemble, c'est bien que tout fonctionne bien. Mais on a des choses à faire. Et souvent, les Barnabas, ils aiment bien que tout aille bien. Hein, mais peut-être ils ne sont pas assez sensibles à ce qui va se passer pour accomplir la vision. Être moins sensible à ce que d'autres pensent, hein, la peur du qu'en dira-t-on, etc. Non, des fois, on peut se laisser aller. Hein. Apprendre à dire non, faire face à la confrontation, être plus direct, être plus décideur. C'est-à-dire que dans la manière dont on fonctionne, si à un certain moment, on ne prend pas d'initiative, ben, rien ne va se faire. Hein. On ne peut pas non plus faire à chaque instant des comités de ceci ou de cela. Alors, pour les pierres, quels conseils on peut leur donner ? Là aussi, à accepter que l'autre puisse être différent. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de pierres ici, mais être moins impulsif, évaluer ses idées. Les pierres parlent beaucoup, et vous savez très bien ce que dit la parole de Dieu par rapport à la parole qui est trop importante, ben, on a beaucoup d'occasions de dire des bêtises. Évaluer ses idées, ralentir, écouter, moins parler, et ça veut dire écouter plus les autres. Hein. Parce que quand on parle tout le temps, on n'a pas le temps d'écouter les autres. Contrôler ses émotions et ses actions. Hein, dans la vie de l'Église, hein, si on n'a que des pierres qui explosent à chaque instant pour telle ou telle raison et qui veulent faire leur truc, ça ne fonctionne pas toujours. Être plus orienté vers la vision, là aussi, il y a une vision que le Seigneur nous a donnée, des choses à faire. Et se concentrer plus sur les détails et les faits, que les choses soient faites de manière à ce que, eh bien, elles avancent. Alors, pour les Luc, là aussi, que les Luc acceptent que les autres puissent être différents. Encore une fois. Être plus ouvert et flexible, plus réactif, prêt à prendre des risques. Plus ouvert, là aussi, comme les Luc sont très méthodiques, etc., tout ce qui sort du cadre, ça fonctionne, c'est difficile, hein, c'est pas dans le cadre. Ne pas avoir peur de développer des relations sociales. Vous savez que les relations sociales, c'est dangereux. Hein. Il vaut mieux rester chez soi, parce qu'au moins, on ne risque rien. Et plus on s'ouvre vers les autres, plus on risque d'être blessé ou d'avoir des problèmes. Et puis surtout, d'accurer les problèmes des autres, parce qu'il faut avoir une bonne oreille. Donc, on dit à ces Luc, non, n'ayez pas peur, allez-y, ça fait partie de la vie chrétienne. On va dire au Luc, concentrez-vous sur l'accomplissement de la vision, pas seulement sur les moyens. Il y a des choses à faire. Et c'est bien que de disséquer tout ce qu'il y a à faire, mais il faut avancer, il faut y aller. Commencer à croire à ses intuitions, être moins orienté vers les faits, ça c'est ce qu'on dit en général à ce genre de personnes. Il faut aussi être sensible au Saint-Esprit, il faut aussi être sensible à ses propres intuitions, il faut donner un petit peu d'espace à l'action de Dieu. Alors pour les pôles, encore une fois, accepter que l'autre soit différent. Tout le monde n'est pas un pionnier, un visionnaire, etc. Ça, c'est sûr. À des pôles comme ça, parce qu'ils veulent avancer, eh bien, il faut dire, sache expliquer tes actions et tes décisions. Sois plus patient. Il faut marcher à la vitesse du troupeau. Apprends à écouter les autres. Exerce moins de contrôle. Sois plus prévenant. Hein, tout le monde est différent. C'est vrai que souvent, les visionnaires ont du mal à comprendre les autres. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont lents. Être plus flexible et donner plus de soutien aux autres. Alors, je ne sais pas si dans les conseils qu'on vient de voir, vous vous reconnaissez dans Luc, Barnabas, Pierre ou bien Paul. Mais ces conseils sont là de manière pratique pour nous dire, faisons attention à qui nous sommes, connaissons-nous, c'est un minimum. Comme ça, dans l'Église, on évitera bien souvent des incompréhensions parce qu'il y a des choses qui peuvent se dire ou qui peuvent se faire, tout simplement parce qu'il n'y a pas de connaissance de qui est l'autre, et même de la manière dont je réagis. Pourquoi je pourrais être mieux que les autres ou pourquoi je veux normer avec qui je suis. On a parlé de vision, et je reprends donc ce que disait Paul dans Philippiens tout à l'heure, dans chapitre 3, verset 13-14. « Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Paul faisait une chose, il avait bien conscience de la vision qui avait été donnée. Et cette vision, bien, elle est exprimée en deux endroits dans la parole de Dieu. C'est Jésus qui nous en parle. C'est le grand commandement et le grand mandat. Le grand commandement, vous le connaissez, c'est ce qui a été dit au jeune homme. Riche, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, l'amour, ça c'est le grand commandement du Seigneur Jésus. À ceci, avec cet amour-là, à ceci, les autres reconnaîtront que nous sommes enfants de Dieu. Et puis, le deuxième aspect de la vision que le Seigneur nous a donné, c'est le grand mandat. Le grand mandat, on dit aussi le grand mandat missionnaire, c'est aller, faire de toute nation des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, c'est Matthieu 28, aussi repris dans Marc 16, de la même manière. Ces deux aspects sont indissociables de la volonté du Seigneur Jésus-Christ pour la vie de l'Église. Donc, on a parlé de l'amour, et on a parlé, donc c'est le grand commandement, et on a parlé aussi d'une vision qui est aussi d'aller vers les autres. Et au service de cette vision, eh bien, on est chacun, avec notre personnalité, capable de nous mettre en route, avec nos talents, avec notre arrière-plan, avec tout ce que nous sommes. Le Seigneur veut nous mettre en route. Et si vous regardez bien, le grand commandement, aimons-nous les uns les autres, c'est tourner vers l'individu le plus proche de nous. C'est d'abord notre conjoint. Là aussi, une question, est-ce qu'on connaît vraiment notre conjoint? Est-ce que je me suis marié avec une Barnabette, une Lucette, une Pierrette, une Paulette? Est-ce que je connais vraiment mon conjoint? Et de la même manière, mesdames, celles qui sont mariées, est-ce que vous connaissez vraiment votre conjoint? Est-ce que vous savez quel type de personnalité est là? Et des fois, il y a beaucoup d'incompréhension. Bon, bien sûr, parce que déjà, ce n'est pas le même sexe, donc c'est complètement un monde différent. Mais aussi parce que ce n'est pas du tout le même profil de personnalité. Et dans l'Église, quand nous faisons quelque chose, quand nous faisons une action, de la même manière, eh bien, on va être associés dans l'action des gens qui sont plus comme Barnabas, d'autres qui sont plus comme Luc, d'autres qui sont plus comme Paul, d'autres qui sont plus comme Pierre. Eh bien, il faut faire avec. Et donc, comment fait-on avec pour que les choses fonctionnent? Et d'abord, comme je disais, on va avoir nos yeux tournés vers la même chose, la même vision, la vision de l'amour et la vision de cette expansion, cette vision du partage, cette vision de l'évangélisation, comme on dit. Évangélisation, ça veut dire partager la bonne nouvelle, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose que le Seigneur nous a donné comme comme vision, l'amour et l'évangélisation. Donc là, c'est résumé dans ces deux grandes choses, le grand commandement et le grand mandat, ce que Dieu nous demande de faire. Alors au service de cela, nous sommes chacun pour notre part, avec notre personnalité, appelés à bouger avec des gens tout à fait différents. Hein, et on va les accepter comme ça. Donc ce matin, vous avez compris, c'est un appel à la tolérance entre nous, parce qu'on est différents. On n'a pas du tout peut-être le même caractère que la personne qui est assise à côté de nous, ou celle qui est en face ou derrière. Mais ce n'est pas grave, avec ça, on peut bâtir. Hein. Le Seigneur veut que nous bâtissions un édifice spirituel avec des gens tellement différents. Et on va arriver donc à s'accepter les uns les autres, à tolérer que bien, parfois la manière de prier va être différente entre un tel et une telle. Il n'y a pas un qui soit moins spirituel que l'autre. Souvent, et on entend, on peut entendre des jugements, enfin des jugements, c'est peut-être le mot un petit peu trop fort, des appréciations qui ne sont pas très positives de l'un ou de l'autre parce que ben il ne fait pas comme nous, on pense que ça devrait être fait dans l'Église. Or, les Églises, je passe dans pas mal d'Églises, sont toutes différentes. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment une norme. La seule norme qu'il puisse y avoir, c'est que Jésus soit au centre. Et puis après, ben, on fait avec toutes ces pierres vivantes qui sont autour pour construire un édifice qui soit bien coordonné, bien solide, qui se soutient les uns les autres. Donc un Barnabas puisse soutenir un Paul, un Pierre, un Luc, qu'un Luc puisse soutenir un Barnabas, un Pierre, un Paul, ça c'est important. C'est le message de l'Évangile, c'est le message de ce passage qu'on a lu tout à l'heure, que nous puissions nous soutenir les uns les autres. On fait un édifice spirituel et on ne regarde pas à ce que devrait faire l'autre, mais on va regarder à ce qu'est l'autre et tous les talents qu'il a pour faire avancer les choses. Alors, il y a des activités dans l'Église, que ce soit avec les enfants, avec les jeunes, avec les groupes de prière, avec les pains, prières et partages, etc. Acceptons-nous les uns les autres, on pourra avancer. Il peut y arriver que quelqu'un commence quelque chose et puis au moment, ben, vraiment, ils font pas comme il faut. Ça ne m'intéresse pas, je vais arrêter. Peut-être on peut se dire, mais est-ce que ça ne me plaît pas parce que j'ai mes filtres à moi, je voudrais que tout le monde soit comme moi et puisse faire que ce soit la louange, que ce soit l'étude biblique, que ce soit la prière, etc., de la manière que j'aime. Non, il faut peut-être se dire, il a sa manière de faire et on va avancer ensemble. Donc un grand appel à tolérance ce matin, que le Seigneur nous aide à être non pas dans une manière de voir avec des filtres, qui est notre personnalité, mais avec la manière de voir du Seigneur Jésus, qui nous regarde chacun pour notre part comme des personnes très précieuses. Nous avons une valeur spécifique pour le Seigneur. Parmi les 7 milliards ou 7 milliards et demi, je ne sais plus où est le compte, actuellement sur notre terre, le Seigneur nous aime chacun pour notre part. Chaque créature de Dieu, il l'aime. Et nous avons une valeur. Regardons l'autre avec sa différence, il a une valeur. Travaillons ensemble pour que les choses puissent aller plus loin. Vous êtes d'accord avec ça ? On va se lever, si vous voulez bien, et puis juste prier sur ce thème-là. Seigneur, nous voulons te demander ce matin ta grâce. Tu nous connais, tu sais que peut-être nous, dans notre vie d'église, dans notre vie de chrétien, même si nous sommes convertis depuis 30, 40, 50, 60, 70 ans ou plus, nous avons pu avoir des manquements par rapport à notre travail avec les autres, notre appréciation des autres. Te demandons pardon, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur, pour cela, personnellement. Seigneur, je veux regarder chacun de mes frères et sœurs avec tes yeux, apprécier les personnalités différentes, apprécier les histoires différentes, histoires de vie, apprécier le chemin de foi aussi de chacun, apprécier les actions, les manières de faire, comme tu le fais, Seigneur. Tu nous vois comme un orchestre, non pas avec que des violons, mais un orchestre avec des violons, des violoncelles, des tambours, etc. Chacun pour notre part, nous apportons notre pierre à cet orchestre. Seigneur, je prie que notre église ici soit une église qui te plaise, Seigneur, où le jugement, où les différences bien, soient gommées. Une église où on peut chacun être ensemble et s'apprécier. Une église où on ne se juge pas parce qu'on a on a fait ceci ou cela, de telle ou telle manière. Une église, on ne se juge pas, peut-être parce qu'on a fait aussi des erreurs, parce qu'on a été un temps peut-être dans le péché ou autre chose. Une église où on s'accepte les uns les autres et où on se pardonne 70 fois cette fois par jour. Une église où on s'épaule mutuellement, où on s'édifie les uns les autres. Une église de pierre vivante. Seigneur, que cette image de toi, Seigneur, en train de passer parmi nous, soit à chaque instant dans notre cœur. Tu nous aimes chacun pour notre part, tu nous entoures, par devant, par derrière. Tu veux faire de nous un corps bien ordonné, à ton service. C'est toi notre chef, Seigneur. Et merci de nous rappeler à travers ta parole, ce que tu as pu inspirer à Paul, Pierre et les autres, de nous rappeler qui nous sommes, ce que nous devons faire, notre vision, celle que tu nous as donnée. Merci de nous aider à marcher à ton service. Nous te rendons grâce, mon Dieu, dans le nom de Jésus. Amen.